En direct de Lourdes, l'évêque de Pamiers est l'invité de la matinale.
Du 19 au 22 mars, les évêques de France sont réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière de printemps. Nous sommes en ligne avec Mgr Benoît Quint, évêque de Pamiers. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Évêque de France, rassemblé à Lourdes, lieu de prière et de solidarité avec les personnes les plus fragiles, nous exprimons notre grande inquiétude et nos profondes réserves à l'égard du projet de loi annoncé sur la fin de vie. C'est la première déclaration des évêques de France publiée dès le début de cette assemblée plénière, alors que le projet de loi sur la fin de vie a été présenté lundi 18 mars au Conseil d'État. Mgr Quint, qu'ont voulu précisément dire les évêques à travers cette déclaration ?
Je crois que les évêques ont d'abord voulu dire leur présence aux côtés des personnes malades, des personnes en fin de vie, ce qui est une présence habituelle qui se vit à travers une présence d'hôpitaux, d'aumôniers, des présences diverses et variées auprès des malades des communautés chrétiennes, je crois. Ça veut dire que la fin de vie, elle fait partie de la vie, et je crois que c'est ça que les évêques ont voulu rappeler, et rappeler en particulier aussi que la législation ne pouvait pas évoluer tant qu'on n'ait pas mis en place l'ensemble des soins palliatifs. Le Conseil consultatif national d'éthique a d'ailleurs fait de la généralisation des soins palliatifs une condition préalable à toute évolution législative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout n'a pas été mis en place encore pour que la fin de vie soit bien accompagnée partout, dans tous les coins de France.
Oui, il y a encore 500 personnes chaque jour qui manquent d'un accès aux soins palliatifs en France. Donc, il y a encore un effort à faire. Donc, une proximité à l'égard des personnes en souffrance, un encouragement en tout cas pour continuer le développement des soins palliatifs et puis une reconnaissance de leurs progrès. Et puis aussi, un appel aux catholiques à s'impliquer davantage auprès de toutes ces personnes en fin de vie, personnes âgées ou personnes en situation de handicap.
Tout à fait. La semaine dernière, à Lourdes, se retrouvaient plus de 200 personnes des diocèses de la région de Toulouse qui sont engagées dans la pastorale de la santé, dans cet accompagnement des malades et des personnes en fin de vie. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui accompagnent, y compris dans les familles. Je crois qu'accompagner les familles qui se retrouvent en face de la question de la fin de vie avec l'un de leurs proches, c'est quelque chose d'essentiel. Et les évêques ont invité l'ensemble des catholiques à s'impliquer davantage auprès des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes en fin de vie. Je crois que c'est vraiment le chemin du Christ lui-même. Hein, quand on regarde l'évangile de Matthieu le jugement dernier au chapitre 25, hein, c'est notre proximité avec les pauvres, les malades, les exclus qui est un petit peu la condition de notre salut. Vous êtes passé à côté du Christ parce que vous êtes passé à côté d'un malade. C'est un peu ça que dit Matthieu dans son chapitre 25.
Et puis aussi, les évêques ont réaffirmé leur attachement et leur encouragement vis-à-vis de tout le personnel soignant qui, là aussi, est en première ligne sur ces questions de fin de vie.
Tout à fait. Toutes celles qui sont engagées auprès des malades, hein, le corps médical, le personnel soignant... ont été encouragés par cette déclaration des évêques. Hein. Je crois qu'il y a dans notre société une véritable peur de la mort et puis en même temps cette espèce de désir frénétique de vouloir prolonger la vie indéfiniment, alors que la mort fait partie de la vie et qu'il faut accompagner cette étape de la vie.
Accompagner cette étape de la vie. Et puis c'est vrai que pour terminer sur ce sujet, la déclaration des évêques dit que nous proclamons sans nous lasser que toute vie humaine mérite d'être inconditionnellement respectée et accompagnée avec une authentique fraternité. Il y a aussi cette question, Mgr Benoît Quint, pardon, de cette fraternité qui parfois, ce mot peut être assez dévoyé.
Oui, tout à fait, je crois que c'est... Mais la fraternité, c'est un impératif pour notre humanité aujourd'hui. Sans fraternité, sans dialogue, sans présence auprès de celles et ceux qui ont besoin d'une présence, on passe à côté du message de l'Évangile. Et Pâques nous rappelle l'importance de la vie et de la mort et de la résurrection du Christ qui change toute vie et donne un sens profond à toute existence.
Donc ça, c'était la déclaration que vous avez publiée à Lourdes pour le début de cette assemblée plénière de printemps. Alors que l'Église célèbre cette année le 60e anniversaire du rétablissement du diaconat permanent, l'Assemblée des évêques a consacré un long temps sur ce sujet. Quel a été l'objet de vos échanges, Monseigneur?
Alors, nous avons consacré une partie de notre temps déjà, et nous allons reconsacrer une partie de notre temps aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas tout vous dire
Oui.
sur le diaconat. Concile. Donc, il faut vraiment avoir en tête que depuis 60 ans, effectivement, quelque chose de nouveau s'est passé dans le monde autour du diaconat, de ce ministère un peu particulier qu'on a souvent du mal à comprendre dans une paroisse, parce que c'est comme un prêtre, mais il fait pas comme le prêtre et il fait pas tout ce que fait le prêtre. Je résume un peu la manière dont des paroissiens parfois parlent du diacre permanent, hein. Aujourd'hui en France, il y a 300 diacres. Il faut avoir en tête qu'en Europe, il y en a 15 000, qu'il y a une moyenne de 90 ordinations par an, et que majoritairement, effectivement, quand on se pose la question de la mission du diacre, majoritairement, ils sont dans la préparation des sacrements, baptême, mariage, principalement. Et puis, ensuite, ils sont dans l'exercice de la charité, qui est un ministère un peu particulier, mais on retrouve des diacres dans les aumôneries de prison, on retrouve des diacres dans les aumôneries d'hôpitaux, on retrouve des diacres dans tous les lieux de ce qu'on appelle la diaconie, la solidarité, ce signe du Christ qui nous indique le lieu de pauvreté comme un lieu de rendez-vous avec lui. Et puis on les trouve évidemment aussi dans un certain nombre de services diocésains, dans des instances diocésaines, parce que ce sont pour beaucoup des gens qui ont eu une vie professionnelle, qui ont des compétences et des qualités qui viennent au service de l'Église aussi.
Et dans le diocèse de Pamiers, combien de diacres permanents avez-vous?
Il y a une douzaine de diacres permanents dans le diocèse de Pamiers. Alors, ils prennent de l'âge. J'espère qu'ils m'entendront pas dire qu'ils vieillissent. C'est pas ça du tout. Ils restent parfaitement dynamiques. Mais la vraie question du 60e anniversaire du diaconat, c'est aussi la question de relancer cet appel au diaconat dans nos communautés. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sont les communautés elles-mêmes qui devraient pouvoir identifier au milieu d'elles des hommes que l'Église pourrait appeler au diaconat. C'est un véritable chantier mais c'est comme pour les vocations presbytérales, hein. À un moment donné, il faut pouvoir repérer des gens et appeler des gens. Leur dire donc qu'on a besoin d'eux pour ce service de la liturgie, pour ce service des plus pauvres, pour ce service de la vie, de l'Église, de manière globale.
Un appel qui
Et
se fait
surtout,
aussi avec les épouses.
un appel qui se fait aussi avec les épouses, puisqu'après le temps de préparation, les épouses des diacres accompagnent toute la démarche de préparation et se retrouvent au final, le jour de l'ordination, à avoir à dire oui, qu'elles acceptent l'ordination de leur mari comme diacre. Le diacre, il a comme lame de fond pour l'ensemble de sa mission de constituer l'Église. Donc il n'est pas là simplement pour s'occuper des pauvres, il est là pour s'occuper des pauvres, pour que les pauvres constituent aussi l'Église.
Ah oui, c'est un rôle non négligeable. Et donc, c'est pour ça que vous passez du temps pendant cette assemblée plénière des évêques à Lourdes sur ce sujet du diaconat permanent pour appeler et puis pour aussi conforter et encourager ceux qui ont déjà dit oui.
Voilà, tout à fait. Je crois que c'est une étape importante de marquer un anniversaire d'abord, mais c'est une étape aussi pour relire le chemin parcouru depuis le Concile. Le diaconat, il est là pour constituer l'Église. Et je crois qu'on a besoin d'entendre des diacres rendre compte du
Oh là là.
de présence que les prêtres, même si pour le commun des paroissiens, on voit le diacre préparer un baptême, on voit le diacre dans des adapes, dans des moments de liturgie de la parole, et on l'identifie un peu trop ou trop rapidement au prêtre. Et je crois que la mission du diacre aujourd'hui, elle n'est pas d'être dans la suppléance du prêtre, ce qui arrange bien à la fois les prêtres, à la fois les paroissiens, mais sa mission profonde, elle n'est pas d'être dans la suppléance du prêtre, mais bien d'amener cette altérité de la mission qui conduit à constituer l'Église.
Alors, outre cette réflexion sur le diaconat permanent, vous avez une réflexion sur les laïcs en mission ecclésiale, toutes ces personnes qui sont au service et notamment au service des diocèses. Est-ce que là, il y a des évolutions qui sont attendues, qui sont espérées? Est-ce qu'il y a des perspectives, Monseigneur?
Alors là, autour des laïcs, on a commencé à évoquer les missions qui peuvent être confiées, les ministères qui peuvent être confiés aux laïcs, comme celui de la catéchèse, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des pistes qui s'ouvrent et qui en sont à leur début.
Oui, parce qu'il y a quand même la traduction du rituel de l'institution du catéchiste, et puis qui s'ajoute au rituel de l'institution du lecteur et de l'acolyte. Donc ça, ce sont des chantiers, si on peut dire, qui permettent de donner une place, en tout cas déterminée, aux laïcs dans l'Église.
Tout à fait, ça va être une nouvelle étape de rang dans la vie de l'Église, évidemment.
Alors, c'est la dernière étape, Monseigneur Benoît Quint, de la réorganisation de la Conférence des évêques de France. Quelles conséquences cette réorganisation entraîne-t-elle sur la vie de l'Église de France?
On espère une bonne, de bonnes conséquences. En tout
cas,
je crois que ce qui est important, c'est pas d'abord de s'organiser pour ensuite vivre quelque chose, c'est de regarder la vie de l'Église pour se dire comment nous organiser pour que cette vie soit optimum, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça le grand chantier de la transformation de la gouvernance un peu de l'Église, mais c'est aussi prendre en compte les forces vives qui sont les nôtres aujourd'hui.
Et par quoi ça passe cette réorganisation pour participer?
Alors, on est sur un chantier global qui a commencé il y a plusieurs mois déjà, qui a été évoqué dans plusieurs assemblées, et on aboutit aujourd'hui à des modifications, effectivement, du règlement intérieur, de l'organisation de la conférence des évêques, voilà.
D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, c'est vrai que dans votre diocèse de Pamiers, plus de 35 adultes vont être baptisés à Pâques. Quelle réflexion ce dynamisme vous suscite-t-il, Monseigneur?
Écoutez, moi, je regarde ces chiffres souvent en termes de pourcentage. En ce moment, en disant 35 adultes qui vont être baptisés à Pâques sur 150 000 habitants, pardon, vous êtes de Toulouse, c'est mieux qu'à Toulouse.
Bravo.
Quand on regarde les pourcentages par rapport à la population, je me dis, voilà, il se passe quelque chose dans nos diocèses, dans tous les diocèses de la région, hein, mais dans tous les diocèses de France aujourd'hui, avec une explosion du nombre de catéchumènes, c'est-à-dire des gens qui nous rejoignent pour faire église avec nous. Et nous avons à les accompagner, à leur ouvrir nos communautés. Enfin, je dis ouvrir, j'insiste beaucoup, parce que les catéchumènes sont assez originaux dans le sens où ils nous bousculent. Et je crois que c'est bien de pouvoir se laisser bousculer par des gens qui ont entendu l'Évangile de manière neuve, de manière différente souvent de nous-mêmes. Et c'est finalement les catéchumènes, eux aussi, qui nous évangélisent, alors que nous pensons, nous, d'abord, être en position de l'évangélisateur.
C'est vrai. Et en quoi que vous disent-ils de leur attirance ou de leur adhésion, de leur désir d'adhésion à l'Église? Qu'est-ce qui les attire?
Alors, je suis en train de faire des réponses aux catéchumènes et à leur demande de confirmation aussi. C'est étonnant de voir comment ils disent leur solitude avant la rencontre avec Dieu. C'est souvent des expressions de ce type-là. Je cherchais quelque chose, j'étais trop seul, et cette rencontre avec Dieu a donné du sens à ma vie. C'est une compréhension du mystère de Pâques, hein, qui se joue là aussi. Hein. C'est une compréhension d'une vie nouvelle qui commence pour eux quand on explique à des parents qui demandent le baptême d'un bébé, que le baptême, c'est être plongé dans la mort pour naître une vie nouvelle. Les parents disent, mais c'est pas ça que je veux pour mon bébé, moi je veux le baptême. Les catéchumènes ont bien compris que c'est un changement de vie qui s'opère dans leur vie au jour de leur baptême, et que c'est une vie avec le Christ absolument inimaginable pour eux avant, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, un accompagnement, en tout cas, à faire de la part de tous les catholiques pour accueillir toutes ces personnes qui sont en chemin. Donc, ces 35 adultes qui seront baptisés à Pâques dans le diocèse de Pamiers, et puis, évidemment, de nombreuses autres personnes sur les diocèses de notre région. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Quint, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes donc l'évêque de Pamiers, et je vous souhaite donc de passer une belle dernière journée avec les évêques de France à Lourdes.
Avant-dernière, il y a encore demain
Avant-dernière, ça
matin.
Se termine demain. Tout à fait. Bonne journée.
Isabelle, bonne journée à vous aussi. Au revoir.